France Inter.
Mesdames et messieurs les députés, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades en fin de vie. Ce projet de loi, par sa portée, nous invite au dépassement de soi. Il existe une demande sociétale claire d'aller un pas plus loin dans notre réponse éthique. C'est notre devoir, pour reprendre les mots du président de la République, de regarder la mort en face.
C'était il y a un an, une nouvelle loi sur l'accompagnement des malades en fin de vie arrivait devant le Parlement. Après un avis favorable du Comité national d'éthique, après une convention citoyenne, après une commission parlementaire spéciale, après aussi un vaste débat public, enfin un texte proposait une évolution du cadre légal pour autoriser le suicide assisté et l'euthanasie. Mais la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier a mis un coup d'arrêt à ce processus, pourtant soutenu par 9 Français sur 10 dans les enquêtes d'opinion. Le nouveau gouvernement de François Bayrou a depuis annoncé la reprise des travaux, mais plutôt sur 2 textes au lieu d'un. Retour à la case départ, estiment les défenseurs du droit à mourir dans la dignité. En attendant, des citoyens naviguent aux frontières de la légalité. On ne parle pas ici de Français qui partent mourir en Suisse ou en Belgique, mais qui accompagnent le suicide d'un parent ou d'un proche, ici même, en France. Des citoyens qui importent aussi des substances illégales pour ça, qui sont même parfois médecins et accélèrent la mort d'un patient.
Si cette personne décide que sa vie doit s'arrêter, je pense que le soignant, le médecin, doit l'écouter. Je sais que c'est complètement illégal. Tôt ou tard, la loi sera votée en France, c'est évident.
Fin de vie, quand la mort est clandestine, c'est un reportage d'Alice Cachaner qui a pu recueillir la parole de ces Français qui en ont aidé d'autres à mourir ou qui sont prêts à le faire. Ils ont voulu témoigner et parce qu'ils risquent des poursuites judiciaires, certains noms ont été modifiés et des voix anonymisées. Pour commencer ce reportage, Alice Cachaner nous emmène dans une banlieue cossue de la région parisienne. Parmi les belles maisons, il y a celle d'Anna, qu'Alice Cachaner avait rencontrée l'année dernière dans une manifestation pour le droit à mourir. Anna avait aidé son père à se suicider.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour, Anna. C'est France Inter. Merci.
Bonjour.
Vous allez, bien?
Je vous précède. Peut-être on va laisser ouvert parce qu'il fait bon. Bienvenue.
Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais toutes les deux, on s'est rencontrées en janvier 2024. C'était lors d'une manifestation aux abords de l'Assemblée nationale et vous vous êtes approché de moi en disant il faut que je vous raconte quelque chose.
Ma vie, ma mort, mon droit, mon choix.
Oui, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très bien du moment, du temps qu'il faisait. Il pleuvait, c'était pas cool du tout. Enfin, c'était pas cool. Pour moi, c'était important d'aller dans cet endroit. C'était important de... Ça faisait un an et demi que mon père était mort.
Et donc, vous m'avez raconté, avec une sorte de sentiment d'urgence, j'ai un journaliste à côté de moi, il faut que je lui raconte, j'ai aidé mon père à mourir en France.
Et je crois que vous m'avez demandé, mais c'était en France ou à l'étranger? Non, je dis oui, en France. C'est vrai que lui, c'était son vœu pour sa fin, et qu'on a réussi à l'exaucer.
Alors là, c'est votre père?
Ça, c'est mon père.
Il est petit sur la photo.
Ah oui, il est tout petit. Il doit avoir 5 ans, en fait.
Et vous avez d'autres photos?
Alors, j'ai celle-ci qui est... oui, qui est une photo récente. Voilà. Là, il devait avoir 80 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était un petit peu avant l'événement dont on va parler. Et là, il était chez lui, devant ses livres, etc. Le voilà. Il me plaît bien, moi, là. Le voilà.
Donc. C'était quelqu'un d'actif, votre papa?
De très, 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 très actif. Ouais. Et d'ailleurs, il était beaucoup dans l'action. Vers la fin de sa vie, c'était dur d'ailleurs, parce que, bah, parce que le corps avait du mal à suivre l'action. Il a toujours été extrêmement sportif et avec un côté sportif très compétitif. Bon, mon père n'était pas malade, hein, mais il avait une enveloppe physique qui commençait à présenter de graves déficiences, enfin de graves déficiences, tout est relatif, mais il ne vivait plus bien en fait. Il avait envie de vivre bien jusqu'au bout de sa vie, c'était un peu ça son sujet. Et il était de moins en moins mobile, il perdait l'équilibre, il chutait. Enfin, tout le corps envoyait des messages, quoi, des signaux. Et puis, il voyait aussi plein de choses. Il était obligé de faire le deuil de plein de choses, en fait. Donc, le deuil de jouer du piano, le deuil de faire des voyages, le deuil de venir même voir ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, très régulièrement, il me disait, bah, ça, je ne peux plus le faire. Et je sentais que ça lui manquait, mais que ça l'effrayait aussi. Enfin, c'était un marqueur encore de la mort qui arrive. Et la mort qui arrive, il ne voulait pas qu'elle arrive comme ça, quoi. Et il m'a donné la date, en fait, à laquelle il souhaitait que ça se fasse. Il m'a appelé un jour en me disant, bah, puisque tu viens à telle date, je propose que je le fasse là. Il l'a dit comme ça, en fait. Hop là. Ah oui, non, ça, c'est je voulais vous montrer ça. Ça, je voulais vous montrer l'agenda. La dernière semaine, on arrivait et là, il avait dessiné sur la date qu'il avait choisie pour se suicider. Il a dessiné une petite faux avec un petit smiley. On voit que la main, elle tremble un peu, mais il sourit, le bonhomme. Il n'est pas genre, oh mon Dieu. Donc voilà, ça parle de état d'esprit.
Quelle a été votre réaction quand il vous a dit « Dans une semaine, je veux en finir ».
Bon, même si je m'y attendais, c'est vrai que je l'ai prise un peu... J'ai un petit peu d'émotion. Je l'ai pris un petit
vous
peu...
Vous voulez qu'on s'assoie ?
Oui, peut-être. Excusez-moi. Mais je vais me prendre un petit verre d'eau aussi. Alors, on a tout ce qu'il faut. Le jour où il m'a dit c'est pour dans une semaine, c'est vrai que je l'ai pris un peu comme... je l'ai pris dans mon visage, quoi. Même si je m'y attendais, c'était un peu une claque. Et à partir de ce moment-là, chaque jour a été un décompte. Pour lui, évidemment. Évidemment, pour moi aussi. Et chaque jour, je ne pensais qu'à ça, en fait. J'ai passé une semaine terrible, en fait, à me demander est-ce que notre plan allait marcher.
Parce que vous aviez un plan ?
Oui, oui, on avait un plan. Bah, enfin, tout était prêt depuis 2 ans, voire même 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'au moment où il a réalisé que les choses commençaient à se dégrader, là, il a dit, il faut que je me prépare. Et donc, il a commencé à se préparer. Et donc, il y a énormément de choses qu'il a dû faire, énormément de choses que j'ai dû faire avec lui pour l'accompagner, parce que c'était pas toujours facile pour lui de dialoguer en anglais, notamment. Et la première chose à faire, c'était effectivement de créer une adresse mail. Tous les messages sont cryptés.
Et à quoi elle servait, cette adresse ?
Cette adresse, elle servait à commander un livre sur Internet qui n'est pas disponible en France ni dans aucun pays d'Europe.
Ce livre, vous l'avez à côté de vous. Et apparemment, c'est un livre traduit de l'anglais.
Oui. Il recense toutes les façons de se suicider, en fait, en douceur. Mon père a donc reçu ce livre qui est arrivé. On n'y croyait pas trop parce qu'on se disait, mais si ce livre est interdit, bah, comment est-ce qu'on arrive quand même à le commander ? Donc, le livre est arrivé par Chronopost, chez lui, tranquille.
Et ensuite, Anna, donc, votre père a choisi la substance létale avec laquelle il souhaitait mettre fin à ses jours. Et que s'est-il passé ?
Donc, il a fallu commander le produit. À l'époque, cette personne était au Mexique, pouvait envoyer du pentobarbital, du nambutal, qui est d'ailleurs le produit qu'utilisent les vétérinaires on a commandé ce produit, j'ai les échanges de mails si vous voulez lire, c'est un truc incroyable. Ouais, je vous montre parce que le, bon. Alors, c'est en anglais et c'est là où effectivement mon papa avait demandé que je lui donne un petit coup de main. Donc le premier mail, il est tout simple, hein. Bon, je le traduis. Bonjour, je vis en France, j'ai 90 ans et j'ai un projet pour la fin de ma vie. Pouvez-vous me donner des informations sur comment acheter du Nambutal, à quel prix et comment on le paye ? Cordialement. Et le monsieur qui se faisait appeler Mr. D, mais on a appris après qu'il changeait sans cesse d'adresse mail et de nom, c'était Monsieur C, Monsieur D, Monsieur F, enfin bon, évidemment, nous a répondu le mail que vous voyez là qui faisait 3 km. Voilà, si vous recevez ce mail, c'est que vous êtes membre d'une association qui milite pour le droit de la fin de vie. Je suis quelqu'un de fiable. I'm no scammer. Ça veut dire que je suis pas. Enfin, je suis quelqu'un de confiance, quoi. Je suis pas. Et je pense que c'est un vétérinaire, hein, le monsieur, hein, et qui se fait un petit business, il arrondit ses fins de mois avec les pays européens où les vieux veulent mourir. Bon, donc. Le paiement, c'est en bitcoin ou Monero. Donc là, on a encore eu un petit souci, hein, mais bon, on a réussi à surmonter le problème. Une fois que vous recevez le produit, s'il vous plaît, supprimez tous les mails entre vous et moi. Placez le produit dans un endroit secure. Détruisez le packaging. Je ne suis pas responsable de ce produit. Il n'y aura pas de remboursement si le produit est confisqué par la douane. Ça a dû arriver, etc., etc. Et ensuite, il rentre dans le dur en disant « Voilà le nom du produit, c'est Pentobarbital. La présentation, c'est des flacons de 100 ml. Et il nous donne le prix. » Alors, ben, pour l'Europe, c'était un flacon 800 $. Et pour deux flacons, nous avons une promo. 1 000 $ américains. Donc, il y a quand même un bénéfice à en prendre deux, si jamais. Bon.
Et alors, vous en avez commandé combien ?
Eh bien, il en a commandé deux. Et 5 jours après, le produit était là.
It's painless, euthanasia.
Comment vous vous êtes sentie au moment où vous avez entrepris toutes ces démarches ?
Je ne crois pas tellement avoir eu peur, même si mon entourage me disait, mais, et notamment mon mari, c'est normal, il me disait, mais t'es sûre, tu vas faire ça, tu sais ce que tu risques, etc. Et c'est vrai que les risques sont quand même... c'est sévère, quoi. C'est parce que ça peut s'apparenter à un parricide, donc c'est pas, j'ai pas un petit truc, quoi. C'est effectivement le meurtre prémédité. Moi, j'avais pas trop regardé parce que je, en fait, c'est idiot, mais c'est l'autruche. Hein. Mais je pense que j'avais tellement besoin. C'est une histoire d'amour, en fait, cette histoire. J'avais besoin d'être là pour mon papa, et donc j'étais prête à mettre mon mouchoir sur les risques potentiels. C'est pas pour me dédouaner, mais c'est comme si on était poussé dans nos retranchements parce que il n'y a pas le cadre qui existe pour nous permettre de faire ça légalement. Eh ben, on le fait quand même. Hein.
Justement, qu'est-ce qui s'est passé le jour où je dis, est-ce que vous êtes d'accord pour nous raconter ce qui s'est passé le jour où votre père a décidé de mourir ?
Oui. Ben, d'abord, on est arrivés, ma sœur et moi. On a dîné tous les trois, donc l'ambiance était totalement irréelle. Enfin, c'était très étrange, en fait. Je pense que j'ai jamais vécu un truc. On était dans une parenthèse entre « il est là, mais il va bientôt plus être là ». Où est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va foirer ? Est-ce qu'il va, au dernier moment, dire « bah non, finalement, allez, un jour de plus ». Enfin, c'est... on est hors de l'espace, hors du temps, en fait, dans ce moment-là. Et donc, à la fin du repas... Il a dit, bah, écoutez, je propose que là, d'habitude on regarde un film, mais là je crois que j'ai envie d'y aller, donc je vais dans ma chambre et vous me rejoignez. Donc il s'est levé. Et donc il a pris le verre. Il a bu le verre, quand même, qui était assez grand, en 5 ou 6 gorgées. Il a reposé le verre en disant « Putain, c'est amer !» Et il a pris la bouteille et il s'est pris une rasade d'alcool. Et il s'est allongé. On a discuté. Très vite, il s'est mis à bâiller. Extrêmement vite, il s'est mis à bâiller. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, il a commencé à respirer, il ne bâillait plus. Et là, ça a duré longtemps. Moi, j'essayais de voir s'il avait encore du souffle. Donc, je mettais mon doigt sous son nez. Et en fait, on avait l'impression qu'il y avait encore un pouls, quoi. Et moi, je disais, tant qu'il y a un doute, en tout cas, moi, je ne pars pas. Et donc, ça a duré extrêmement longtemps. On est resté dans l'appartement, aéré comme des malheureux. On a regardé ses bouquins. C'était vraiment dur, très dur.
Go.
Et à partir de ce moment-là, avec ma sœur, on s'est mis en route. On avait tout préparé pour qu'il ne reste plus aucune trace de rien du tout. Donc on avait pris le verre, on l'avait mis au lave-vaisselle. Et on avait mis les 2 petits flacons par terre devant la porte dans un sac pour ne pas les oublier et les emmener à l'autre bout du quartier dans un conteneur à verre. Bon, les pièces à conviction, comme disait l'avocat, quoi. Et on est parti, en fait. Je pense qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit.
Quelques années après le décès de votre papa, quel regard vous portez sur tout ce qui s'est passé ?
D'abord, je me dis, si c'était à refaire, je crois que je le referais. Parce que ça s'est bien passé et que ça m'a un peu cassée. Mais ça le valait, comme on dit. C'était beau. C'était vraiment beau. Et puis moi, je réparais quelque chose aussi. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que ce qui m'émeut le plus, c'est pas tant la mort de mon père, qui a été belle, que ce que je voulais lui éviter, qui est la mort de ma mère, qui a été une mort assez atroce et dans une immense solitude. C'est ça qui m'émeut. Donc si c'était à refaire, je le referais, bien sûr.
Merci Anna.
De rien, merci à vous. De votre gentillesse, de votre confiance.
Ces dernières années, les témoignages de Français anonymes comme Anna se sont multipliés. Témoignages aussi de personnalités publiques, comme par exemple la députée écologiste Sandrine Rousseau ou la comédienne Françoise Fabian.
Je veux défendre l'euthanasie, l'euthanasie choisie. J'ai euthanasié mon père. Il souffrait tellement, tellement. J'étais dans un état de désespoir total. Il a fermé ses yeux, il m'a embrassé sur les lèvres et il est mort. Et bien ça, c'est une belle histoire d'amour.
Impossible aujourd'hui de chiffrer, de quantifier ces suicides assistés qui sont pratiqués dans la clandestinité, mais avec toujours des complicités de médecins ou d'associations. En France, l'association Ultime Liberté, par exemple, considérée comme la plus radicale, assume d'intervenir pour aider ceux qui cherchent une aide médicale à mourir. Une 10aine de ses adhérents, dont la présidente, sont d'ailleurs aujourd'hui mises en examen. Alice Cachaner est maintenant à Troyes, dans l'Aube, où Ultime Liberté est en train de s'implanter.
Interception sur France Inter.
Bonjour, rentrez,
je suis Alice Cachaner.
Clauderie, Ultime Liberté, fondatrice de l'association.
Merci de nous recevoir. On se trouve dans une salle de réunion. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez loué la salle, c'est ça ?
Alors, c'est une maison des associations. Donc, chaque mois, je viens régulièrement depuis 5-6 mois pour essayer de créer une association sur 3. Jusqu'alors, il n'y avait pas d'antenne. Donc, on a besoin Il y a eu une demande de personnes, d'adhérents, pour que localement, on crée une antenne. On a fait tout le côté administratif ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, ça va être la première séance de formation pour des personnes qui veulent être accompagnantes.
Bonjour Annie, bonjour Michel, c'est peut-être le tiers.
Ah oui, bon. Je cherche.
Je t'ai piqué.
Alors, ils sont 7 maintenant dans la salle, ils sont en train de s'installer, des hommes, des femmes. Ils ont pour la plupart autour de 80 ans.
Bon, ben bonjour à tous et toutes, merci d'être venus si nombreux. Donc, on a vu depuis 3 ou 4 séances déjà l'organisation matérielle, c'est pratiquement terminé. Maintenant, on va commencer quand même l'essentiel de notre association, de notre activité, qui est affichée dans le flyer, c'est l'accompagnement personnalisé. Donc, on aura à aborder donc, les règles. Il y a une charte. Donc, dans cette charte, il y aura le principe, on est toujours en collégialité, c'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un, on est toujours deux. Ensuite, il faut que la personne soit adhérente parce que on pourrait être poursuivi pour propagande. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis, il y a ce qu'on peut dire fin de partie, c'est le moment où la personne va passer à l'acte pour elle-même, sachant qu'on est bien dans le suicide assisté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun geste létal. On ne fait, nous, aucun geste létal. Il y a un deuxième point, c'est que si vous êtes tenez la main de quelqu'un qui est en train de prendre son verre et de mourir, eh bien, vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. On aurait dû alerter la police, alerter les hôpitaux psychiatriques, alerter tout, pour empêcher la personne de le faire. Donc, voilà, tout, je vous informerai aussi sur tous les risques légaux.
Qui veut continuer ce tour de table?
Je me prénomme Alain, j'ai 76 ans, je suis retraité, j'étais travailleur social, éducateur spécialisé. Et aller dans une famille ou une personne qui me demande de l'aider pour l'aide au suicide, c'est déjà de l'écouter, d'essayer de faire la part des choses. Est-ce qu'elle est dans un moment de dépression ou est-ce qu'elle est vraiment en fin de vie comme elle le souhaite? Et là, il faut aller jusqu'au bout. Ça ne me dérange pas. Puis ce qui pourrait m'arriver, c'est d'avoir un bracelet électronique. Bon, un bracelet, j'aurai un bracelet, j'ai que deux jambes, ils m'en mettront deux, on verra bien. À partir du moment où on est au clair avec soi-même, moi je suis au clair avec la mort depuis très longtemps, ça ne me pose pas de problème d'accompagner des personnes. À partir du moment où c'est vraiment elles qui le souhaitent et qu'elles le veulent, moi, je vais jusqu'au bout.
Ça ne vous pose pas de problème d'être potentiellement hors la loi?
Ça ne me pose pas de problème. J'essaye d'être dans le cadre de la loi régulièrement, bien sûr. Mais il y a des fois, il y a des lois qui me semblent, j'allais dire, injustes. Ben, je ne les respecte pas.
Ça ferait une belle conclusion, ça.
C'est Alain, c'est toi qui disais que tu pourrais accompagner quelqu'un jusque... Non ?
Oui, parce que j'ai rien à perdre. Le bracelet électronique, comme vous dites, à partir d'un certain âge, on est assez au-dessus de ces contingences.
Oui. Il y a un mot qu'on a beaucoup de mal à prononcer, je ne l'ai pas entendu vraiment, c'est le mot « solidarité ». Donc, nous sommes en société, nous sommes solidaires d'un certain nombre de personnes, et dans ma vie, moi, j'ai accompagné un certain nombre de personnes dans différentes situations. On ne choisit pas toujours. Des fois, c'est la réalité, l'instant qui vous oblige. Parce qu'on comprend, on comprend à l'instant donné que c'est ça qu'il faut faire.
Donc, on reprendra donc la suite dans un mois. Parce que là, ça fait deux semaines de suite qu'on se voit. Ça fait beaucoup, même si je vous aime bien. Non, je plaisante. Mais on prend une date tout de suite. Je vous dis au revoir.
Au revoir.
Et puis, à dans un mois.
Hein. À dans un mois.
Sauf okay. S'il y a un problème.
Au revoir. Au revoir.
Des perquisitions menées mi-octobre ont permis de saisir plus de 130 flacons de pentobarbital chez des personnes, pour la plupart âgées, comptant utiliser ce produit létal pour mettre fin à leurs jours. Tous appartiennent à l'association Ultime Liberty.
Dans cette zone grise de la fin de vie, la frontière de la légalité, eh bien, elle est très vite franchie. Une dizaine de membres d'Ultime Liberté est poursuivie aujourd'hui pour trafic de substances illicites, deux autres pour provocation au suicide. Il y a aussi des drames humains, des procès devant des cours d'assises. Je suis maintenant à Nancy pour faire le point justement avec un avocat, Maître Frédéric Vera. Bonjour.
Bonjour,
je suis Alice Cachaner de France Inter.
Entrez. On va aller s'installer dans un bureau. Alors, je suis Frédéric Vera, avocat inscrit au barreau de Nancy depuis environ une trentaine d'années. Et j'interviens assez régulièrement dans des affaires concernant la fin de vie. Récemment dans le dossier concernant Bernard Palot, et puis également j'interviens pour des militants de l'association Ultime Liberté également.
Alors justement, vous parlez de Bernard Palot, vous l'avez défendu à la cour d'assises de Troyes, c'était en novembre. Un homme de 78 ans jugé pour avoir tué son épouse en l'étranglant, et il a été acquitté. Est-ce un verdict historique ?
Alors, historique, en tout cas, ça aura marqué l'histoire de la fin de vie, ça c'est certain. Avec d'autres procès, c'est pas le seul. Il y a eu d'autres jalons qui ont été posés. Mais oui, c'est quelque chose qui envoie un signal. Ce qui est important aussi, c'est que ça a été rendu par un jury populaire, donc qui émane du peuple, qui est majoritaire au sein de cette cour d'assises. Il y a trois magistrats professionnels, mais il y a aussi toutes ces personnes qui sont présentes. Et donc ça veut dire quelque chose dans la mesure où on colle avec l'opinion publique en disant pour ce type d'acte, les textes actuels qui poursuivent les homicides volontaires ne sont plus adaptés au cas de fin de vie. Voilà, très clairement, c'est ce que ça veut dire. Ouais.
Vous êtes l'avocat de l'association Ultime Liberté, vous avez défendu Bernard Palot. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas similaires ? Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels ? En ce sens.
Alors, il y a deux cas, en gros. Il y a des gens qui veulent savoir ce qu'ils risquent s'ils font quelque chose. Donc, ils nous interrogent en disant, si j'amène ma grand-mère en Suisse, qu'est-ce qui va m'arriver ? Enfin, voilà, ce sont ce genre de questions. Et puis, des gens qui l'ont fait, ils aimeraient être rassurés en disant, vous pensez que je peux aller en prison ? Vous pensez que si ? Vous pensez que ça ? Voilà. Mais bon, globalement, le nombre de gens qui sont poursuivis n'est pas très important.
Comment on peut expliquer cet état de fait ?
Parce que dans la plupart des cas, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que la personne qui le demande est évidemment d'accord, parfois même supplie qu'on le fasse. L'entourage est d'accord aussi, voit que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et dans certains cas aussi, les médecins eux-mêmes sont d'accord. La justice n'a pas à trancher parce que la justice n'est pas saisie, la justice ne le sait pas.
Et alors, justement, cette justice, quelle est sa réponse ? Quelle est la position des juges ? Votre client, Bernard Palot, a été acquitté, alors qu'il aurait pu, il encourait une peine de prison à perpétuité. Il y a, je pense, par exemple, au docteur Bonne-Maison, cet urgentiste, qui finalement a été partiellement acquitté pour 6 cas et condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il y a Jean Mercier, un octogénaire aussi, qui a été, lui, relaxé pour avoir aidé sa femme à mourir. Je pense aussi à la mère de Vincent Humbert, où là, ça a été un non-lieu. Quelle est la réponse de la justice ? Fait-elle preuve de mansuétude ? Est-elle clémente ?
Évidemment, quand on est en train de parler de faits qui pourraient relever de l'assassinat. Les peines qui sont d'habitude encourues sont des peines bien plus importantes que ce qui est prononcé dans les affaires que vous venez de relater. Moi, mon sentiment, c'est que l'institution judiciaire n'est pas satisfaite lorsqu'il y a un acquittement qui est analysé comme étant un blanc-seing total. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les peines ne sont, dans la plupart des cas, pas très élevées. Mais en revanche, on a une insatisfaction du parquet tant qu'une peine n'est pas prononcée. On a des gens qui se retrouvent lorsqu'ils accompagnent leurs proches dans des pays comme la Belgique ou la Suisse, ne sont pas poursuivis par la justice, mais derrière, on leur met tous les tracas administratifs pour rapatrier le corps. Où on a des condamnations, effectivement, qui relèvent presque du symbole, mais ça a du mal à passer. C'est là où quelque chose doit absolument changer, c'est que ces gens ne se vivent pas du tout et ne sont pas vécus du tout par la population comme étant des assassins ou des criminels. La plupart de ces gens, quand on leur dit « vous êtes un assassin ou vous êtes un criminel », dénient ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'ils ne supportent pas. Ils ont fait un acte de compassion, ils ont fait un acte profondément humain, un acte d'amour pour certains d'entre eux, puisque c'était leur compagne ou leur compagnon, et ils dénient complètement le fait d'être un criminel. Or, si vous êtes condamné même à une peine légère, vous êtes un criminel aux yeux de la société. Et c'est ça qui est difficile pour eux à accepter. Oui.
Le procès des membres d'Ultime Liberté se tiendra en septembre prochain au tribunal correctionnel de Paris. Pour l'association, ce sera une nouvelle fois l'occasion de réclamer un texte, une loi adaptée à la réalité et aux attentes de nombreux Français. Certains sont médecins, ils ferment les yeux quand il faut donner les causes de la mort sur un certificat de décès, d'autres vont beaucoup plus loin et réalisent même le geste létal en basculant donc dans l'illégalité. Notre reporter Alice Cachaner a pu rencontrer un de ces médecins qui assume d'euthanasier certains patients. À sa demande, sa voix a été anonymisée et le rendez-vous a été pris dans un lieu secret.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Voilà. Erwan, donc je suis médecin retraité de fraîche date. Je me suis depuis longtemps investi dans la fin de vie, de par mon vécu personnel, mais également et surtout de par mon vécu professionnel, et avec une implication forte, puisque je pratique effectivement des aides médicales actives à mourir en France.
Vous avez travaillé également pour l'hôpital public, et déjà à l'époque, vous pratiquiez des aides à mourir. Vous savez à peu près combien de personnes vous avez aidées ?
Ce serait difficile à dire parce qu'à l'hôpital, j'en ai aidé plusieurs. Globalement, je pense 5 cette année et puis à peu près le même nombre chaque année depuis un long temps d'exercice.
Quel est le profil des personnes ? De quoi souffraient-elles, ces personnes que vous avez accompagnées jusqu'au bout ?
Maladie de Charcot, évoluée, cancer digestif dans deux situations. Grand âge et cancer associés dans deux autres situations.
Alors comment elles vous contactent, ces personnes ? Parce que forcément, c'est pas marqué à votre adresse que vous pratiquez des euthanasies, il faut rester discret. Comment elles entrent en contact avec vous ?
Alors, c'est des personnes qui font appel discrètement à mes services. Ça peut être leurs frères, ça peut être leurs conjoints, ça peut être eux-mêmes. Je me base sur ce qu'aurait été la loi, si elle était passée, pour aider les personnes à pronostic vital engagé. Donc ces personnes qui, d'une part, peuvent ne pas souhaiter aller à l'étranger, d'autre part et surtout, sont dans un état tel que le voyage vers la Belgique et a fortiori vers la Suisse serait trop difficile. Après, il est très important pour moi d'avoir une approche collégiale, c'est-à-dire qu'un de mes collègues médecins va également participer à l'entretien avec la personne pour vérifier que le choix est libre. Toujours cette liberté fondamentale du choix, que le discernement est complet et que toutes les alternatives thérapeutiques ont été présentées, qui vont des soins palliatifs aux soins de support, en passant par les autres modifications thérapeutiques éventuellement, de manière à ce que la personne ait vraiment eu le choix complet et total de son geste, de sa volonté.
Vous n'agissez pas vraiment seul, ce que je comprends.
En amont, non. La collégialité est essentielle. Il faut absolument, pour moi, qu'il y ait un autre avis médical que le mien. C'est très important. Et un médecin qui soit indépendant, bien évidemment, de la personne, qui ne la connaisse pas, qui connaisse par contre son dossier, qui la rencontre, qui discute avec elle, qui vérifie que le choix est complet et totalement structuré.
Et alors, ce moment ultime, comment se déroule-t-il ? C'est pas un acte anodin ?
J'arrive la veille pour discuter avec la famille. Très important que la famille soit là. Le geste doit être transparent. Puis après, je me retire et je m'arrange pour ne pas passer la nuit, surtout dans la maison, pour que les gens aient tout leur temps pour, d'une part, parler entre eux, rire entre eux, chanter entre eux, et surtout, éventuellement, que la personne puisse avoir la possibilité de changer d'avis. Ça n'arrive pas. Mais en fait, que la personne ait vraiment... ce n'est pas cette pression d'avoir quelqu'un qui est venu spécialement pour elle. Je crois qu'il faut qu'elle se sente totalement libre. Et c'est seulement dans la nuit ou le lendemain que le geste est fait. À ce moment-là, la personne s'endort très progressivement. On a un produit qui endort très progressivement, très doucement. Le sourire est toujours là. Et puis après, la personne dort profondément. On injecte un produit contre la douleur de façon systématique. Et puis après, on met un produit qui va arrêter les fonctions vitales en très peu de temps.
Pourtant, le serment d'Hippocrate dit « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement des agonies. » Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. C'est pourtant ce que vous faites.
Oui, alors, important de dire, je ne prolongerai pas les souffrances. Ça, c'est très important. Et d'autre part, le terme délibérément. Délibérément, il y a délibération, il y a discussion. Or, c'est une discussion entre la personne, le patient et son médecin. Si cette personne décide que sa vie doit s'arrêter, je pense que le soignant, le médecin, doit l'écouter.
Est-ce que vous êtes rémunéré pour cet acte ?
Non, jamais. Jamais. Ça, c'est le bénévolat, pour moi, est essentiel. C'est un des piliers de mon action. Parce que je pense que c'est vraiment un geste, ça fait sourire, hein, mais de fraternité. Je crois que la fraternité se paye pas. Il n'y a pas d'argent pour ça.
Est-ce que vous gardez une trace de tout ça ?
Oui, oui, je garde tout à fait les traces. D'abord parce que je souhaite n'avoir rien à cacher. Pour moi, c'est clair et transparent. Si je dois un jour me défendre, je souhaite avoir les documents pour le faire, premier élément. Et deuxième élément, c'est parce que c'est en cohérence avec profondément ce que je pense. Et donc, non, je ne détruis pas les preuves, si je puis dire, les dossiers. Je garde le dossier médical, je garde l'accord écrit de la personne, mais également l'accord écrit de la famille, en disant que la famille a signé un accord disant qu'ils étaient bien sûr au courant de la décision de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sœur, d'une part, et que d'autre part, ils s'engageaient à ne pas faire de poursuite contre celle ou celui qui ferait le geste. Je sais que c'est complètement illégal, mais je dirais que je me sens un petit peu comme ces soldats qui sont morts le 11 novembre à 10h du matin, juste avant l'armistice. Parce que si vous regardez autour de vous, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Espagne, le Portugal, maintenant l'Angleterre aussi, ont complètement accepté cette aide médicale active à mourir dans les pronostics vitaux engagés, en tout cas. Et donc, tôt ou tard, la loi sera votée en France, c'est évident.
Le docteur Erwan parlait de la loi, d'une évolution attendue par une majorité de Français. En 2024, eh bien, ça n'a pas abouti. Peut-être en 2025. Alors pour terminer ce reportage, je me trouve justement devant l'Assemblée nationale où j'ai donné rendez-vous aux deux auteurs du dernier texte sur la fin de vie, Alain Claës et Jean Leonetti. On arrive salle des pas perdus à l'Assemblée et dans un premier temps on va rencontrer Jean Leonetti, ancien député UMP.
Bonjour,
c'est moi. Je suis Alice Cachaner, enchantée.
Enchantée madame.
On va passer par ici, on va aller là. Voilà, on y est, la salle Empire. Vous avez donné votre nom à deux lois sur la fin de vie, la loi de 2005, la loi de 2016. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes de la loi de 2016 appelée Claës-Leonetti ?
Les principes, ils sont les mêmes en 2005 et en 2016. Au fond, le non d'abandon, je ne t'abandonnerai pas, je te respecterai dans ta dignité jusqu'au bout de ta vie. La non-souffrance, je soulagerai ta souffrance, même si ça doit raccourcir ta vie. Et puis, la non-acharnement thérapeutique, je ne m'obstinerai pas à faire des traitements, même s'ils sont techniquement possibles, en réfléchissant qu'ils peuvent être humainement insupportables.
Et la légalisation de la sédation profonde et continue.
C'est dormir pour ne pas souffrir avant de mourir.
Est-ce qu'aujourd'hui, près de 10 ans après votre loi, le cadre législatif doit évoluer, selon vous ?
Tout cadre législatif doit et peut évoluer. Voilà. Penser qu'on a fait une loi parfaite, c'est une stupidité. Et penser qu'on a fait une loi immuable avec une société qui bouge dans ses conceptions de la vie, de la mort, du bonheur, ça ne peut pas être acceptable. Pour autant, ça serait bien quand même que le législateur, au lieu de faire des lois supplémentaires, applique les lois qui ont déjà été votées. Il y a une loi de 99 qui donne accès aux soins palliatifs à tout le monde, elle n'est pas appliquée. Il y a 20 départements qui n'ont pas de soins palliatifs. C'est un scandale français. Voilà. Le deuxième point, c'est effectivement qu'il y a 2 lois qui ont été votées à l'unanimité. Donc, ces 2 lois, appliquons-les. Voilà. Et puis, s'il y a un espace sur lequel on se pose la question de l'autonomie de la personne, au-delà du fait qu'on a été au bout du chemin de la solidarité et de la fraternité, alors peut-être qu'on peut envisager, dans des cas particuliers, exceptionnels, une situation différente avec le droit de la personne à se donner la mort avec une assistance. Voilà comment je vois les choses. Après, on peut tout bousculer et dire, après tout, on va poser la question aux Français, ils vont répondre oui ou non. Et puis moi, je vous la pose bien, la question, comme ça, généralement, c'est est-ce que vous préférez beaucoup souffrir avant de mourir ou est-ce que vous préférez mourir un peu avant ? Ben moi, je vous dis, moi, je préfère mourir avant. Tout le monde va répondre ça. Mais dans la pratique, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais d'abord, on a le devoir de préserver la qualité de vie à ceux qui vont mourir.
Merci Jean Leonetti.
Merci à vous. Vous faites mes amitiés à l'Inclès.
Entendu.
Voilà. Il faut toujours avoir des amis dans l'autre rive. À bientôt.
À bientôt. Bonjour Monsieur Claes.
Alain Claes, ancien parlementaire, on dit parlementaire honoraire, puis maire de Poitiers. Et aujourd'hui, je siège au Comité consultatif national d'éthique.
Aujourd'hui, en France, au cours de notre reportage, nous avons rencontré des situations, des personnes qui nous racontent des situations d'euthanasie clandestine, de suicide assisté clandestin sur le sol français. Est-ce que cela signifie que la loi de 2016 ne suffit pas, n'est pas efficace ?
Écoutez, les cas auxquels des familles sont confrontées. Ce n'est pas un choix entre la vie et la mort. La mort, elle est là, à moyen terme. Et la question qui se pose à la personne, mais aussi à la société, quel est le chemin le moins pire ? Voilà la question. Quel est le chemin le moins pire ? Alors, c'est une question intime. Mais pour que cette question intime puisse trouver dans une société des réponses, il faut un cadre législatif.
Est-ce que vous avez espoir que cette loi soit adoptée cette année, dans la mesure où, à l'heure où on se parle, aujourd'hui, c'est plutôt la piste de 2 textes distincts, amélioration des soins palliatifs et d'un côté l'aide active à mourir.
Alors, je ne veux pas préjuger de ce que sera la position des parlementaires. Mais je vais vous dire 2 choses. Je pense que si elle ne venait pas en débat, ça serait une faute démocratique. Pourquoi ? Car il y a eu une convention citoyenne, il y a eu des avis, différentes structures sur ce sujet. Le président de la République s'est engagé vis-à-vis de cette convention citoyenne en disant « la démocratie représentative va se saisir de ce débat ». À un moment où notre démocratie est un peu fragile, je pense que cette promesse doit être tenue. et je suis convaincu qu'elle sera tenue. C'est au Parlement maintenant de faire son travail, hein, avec un souci constant. Il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Toute position est respectable à partir du moment où on essaye de lier solidarité et autonomie.
Fin de vie, quand la mort est clandestine, un reportage d'Alice Cachaner, prise de son Fabien Gosset, Virginie Lorda et Benjamin Reyes. Réalisation Gaëtan Colli, mixage Cédric Chatelus, attaché de production Martine Messonnier. Pour écouter ou réécouter ce reportage et bien d'autres, c'est facile. Abonnez-vous au podcast de l'émission Interception sur l'application Radio France.